Bonjour à tous, tout de suite votre flash info de 12h30 présenté par Lauriane Barbier.
Ce lundi marque l'ouverture du procès pénal de Donald Trump à New York. Il s'agit du premier des quatre procès dont il fait l'objet. Pour rappel, l'ex-président avait versé 130 000 dollars à une actrice X pour acheter son silence concernant leur brève relation. Il est accusé d'avoir dissimulé ce paiement parmi les frais de son entreprise immobilière. Il risque une peine maximum de 4 ans d'emprisonnement. Alexandre De Croo est en visite au Maroc ce lundi. Il est accompagné des ministres de l'Intérieur, de la Justice, des Affaires étrangères et de la secrétaire d'État à l'asile et la migration. Les discussions tourneront autour du sort des détenus marocains emprisonnés en Belgique. Chez nous, près d'un parent sur quatre doit diminuer son rythme de travail, voire arrêter totalement son activité. La faute au nombre de places disponibles dans les crèches. Selon la Ligue des familles, ce sont les mamans qui seraient les plus impactées par la situation. La Liège Pride se tiendra du 23 au 25 août prochain à Liège. Pour cette première édition, les organisateurs espèrent 5000 spectateurs et une quinzaine de chars. Dans le cadre du chantier du tram de Liège, la place Général Le Mans sera fermée à la circulation les nuits du 15 au 19 avril inclus. Autre embarras de circulation à prévoir, le tunnel de Cointe sera également fermé de 22h à 6h du matin toute cette semaine. Place désormais à notre petite rubrique sportive. Benjamin Simonis et Clément Bailly sont partis à la rencontre de Benjamin Louis, un jeune rameur en aviron à l'avenir prometteur.
Je m'appelle Benjamin Louis, j'ai 21 ans et ça fait approximativement 10 ans que je fais de l'aviron. Donc j'ai commencé parce que mon papa faisait de l'aviron, mon grand-père faisait de l'aviron. Puis du coup un jour j'ai eu l'envie d'essayer. Et puis j'ai mordu et j'ai jamais arrêté. Il faut savoir que l'aviron c'est très compliqué parce qu'il y a plusieurs catégories. Deux disciplines si on veut, il y a l'aviron de rivière et l'aviron de mer. Et là je m'oriente plus vers l'aviron de mer. Donc c'est un nouveau sport. S'entraîner ici à Liège c'est quand même assez compliqué. Genre avec les eaux, l'infrastructure, le manque de moyens. Et l'aviron de mer ça reste un peu plus accessible. Et aussi parce que je pense que je suis plus un sprinter que quelqu'un d'endurance. On s'entraîne en moyenne entre 10 et 14 fois par semaine. Donc on peut faire un peu tout ce qu'on veut en endurance. Puis après le travail spécifique se fait en bateau quand même. Alors les objectifs de cette année, ben c'est de nouveau participer aux championnats d'Europe. Donc en beach sprint et en endurance. Et aussi les championnats du monde. Et bien sûr, essayer d'y performer. L'aviron, il faut être quelqu'un quand même d'acharné, je dirais, parce que surtout si on pratique en région wallonne, surtout ici à Liège, par exemple, parce que c'est un sport dur, il faut s'accrocher. Il y a plus souvent des bas que des hauts, mais avec de la persévérance, tout est possible.
Au programme tout au long de cette semaine, 48FM vous propose un magazine reportage réalisé par les premières années de master en journalisme de l'Université de Liège.
L'exploration des bâtiments abandonnés, plus connus sous le nom d'urbex, s'est répandue en Belgique. Au-delà du frisson d'une visite interdite, c'est grâce à la photographie que certains urbexeurs cherchent à conserver la mémoire de ces lieux. Julien Beauvois a rencontré Florian Le Burton le temps d'une séance photo dans une usine désaffectée.
Pas de trou dans ce mur-là. L'entrée sera plus sympa. Pour lui faire avoir le vertige. Si t'as le vertige, alors il pourra me le dire.
Depuis 15 ans, Florian Le Burton visite des bâtiments abandonnés. C'est même un professionnel. Il est photographe et urbexeur.
Alors ici, on est dans une chaufferie. Ça permettait d'alimenter des sites métallurgiques. Tout le bassin sidérurgique ici liégeois en fait a une importance capitale pour l'histoire de la ville, pour l'histoire de son développement. C'est ma micro-pierre à l'édifice sur une forme d'hommage qu'on peut rendre à tous les gens qui ont travaillé parce que les conditions de travail ici étaient abominables.
Vitres cassées, escaliers précaires et machines éventrées par le temps et les chercheurs de cuivre. L'autodidacte y voit une esthétique mélancolique et poétique. Un hommage industriel.
Quand tu regardes la scène là en face de toi, ouais. T'as vraiment une ombre portée par la lumière qui vient vraiment de la gauche et qui porte l'ombre de la rambarde vraiment sur le mur qui est un peu verdâtre et c'est très très sympa. Au plus j'avance dans ma démarche photographique, au plus je trouve qu'il n'y a pas réellement de bon spot, quoi. Je pense que ce qui va faire une bonne photo, c'est ta manière de transformer le spot et un peu de transcender la lumière. Si tu veux, on va aller sur le toit de ce bâtiment aussi, quoi.
Florian Le Burton connaît chaque recoin poussiéreux de cette cathédrale en ruine. Il se balade comme chez lui sur les poutres, entre la salle des machines, les bureaux, où trônent encore trois écrans cathodiques des années 90. Les chaudières, remplies d'amiante qui ont causé tant de maladies aux ouvriers passés ici, jusqu'au toit qui surplombe la ville. Toujours l'œil à la recherche d'un instant à capturer, et l'oreille en alerte pour ne pas se faire prendre.
Hello.
Car l'urbex est une pratique risquée et interdite, qui joue aux frontières de la légalité.
À partir du moment où un lieu est laissé à l'abandon et négligé par ses propriétaires et que l'entrée est ouverte avec une parcelle qui l'est aussi, on peut s'y rendre sans trop de risques pénaux et on peut s'aventurer dans ce type de choses sans prendre trop de risques. Maintenant, voilà, l'urbex comporte des règles, ne rien prendre, ne rien voler, ne rien faire d'illégal parce qu'à un moment donné, ça pourrait créer aussi d'autres risques pénaux. Donc je ne conseille à personne de faire ce genre de choses quand ils font de l'urbex parce qu'il y a des règles à respecter. Et c'est vraiment très important.
Ces usines abandonnées, maintenues en vie par les explorateurs ou les squatteurs, on peut les visiter au travers des expositions de Florian Le Burton et de ses collègues photographes et urbexeurs. Un art accessible à tous pour que perdure la mémoire de ces monuments d'une époque révolue.
Liège possède ses pépites et Viviane Elefsen en fait partie. Cette styliste reconvertie nous prouve que la cité ardente regorge d'artistes créatifs. Au sein de son atelier, elle s'inspire des plus grands créateurs. Clémence Giroul s'est glissée dans son univers.
Dans la rue du Jardin Botanique, un atelier attire l'attention. Elefsen. Cette styliste a commencé sa carrière avec une robe plutôt particulière, une robe d'avocate. Finalement, elle préfère ne plus en porter, mais plutôt en designer.
Pourquoi est-ce que je suis passée du monde juridique au monde de l'art? Eh bien, quelquefois, je pense qu'il y a des liens entre les deux. C'est l'imagination, à mon avis.
La fierté de ses origines norvégiennes est présente dans ses créations, tout comme le design japonais.
De par mes expériences passées, je respecte le classique. J'essaye d'arriver à une simplicité, à un confort.
Bien que son atelier soit assez grand, tous les recoins regorgent de tissus et de matières des plus colorées aux plus sobres, ainsi que des imprimés chamarrés.
Il y a effectivement deux fois par an, en tout cas à Paris, des salons professionnels où tous les textiles du monde entier se réunissent. C'est là où je repère effectivement aussi les tendances et c'est là où je fais mes commandes.
Dans l'atelier Elefsen, plusieurs machines sont en effervescence, que ce soit la machine à coudre, la brodeuse ou encore la surjeteuse. Et tout ça grâce à sa fine équipe.
Par exemple, les morceaux de tissu qui nous restent, parce que quand on coud, ils restent toujours, eh bien, on les réutilise pour autre chose, pour les étiquetages, pour la décoration, pour des petits détails. On essaye de jeter le moins de déchets possible. Pour l'avenir, je pense que, donc, au niveau social, la question de l'écologie doit se poser à tout le monde, ou sinon on n'est pas viable.
Au Festival de Cannes, il y a les stars, mais il y a aussi les personnes qui doivent les habiller pour monter les marches. Viviane Elefsen en faisait justement partie l'année dernière.
C'est une expérience incroyable que je souhaite à tout designer parce que ça forme dans beaucoup de points qui ne sont pas forcément le design en lui-même, mais surtout au monde extérieur dans lequel le designer doit se confronter pour arriver à être reconnu.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que Viviane Elefsen n'est pas à court d'idées. De nombreux projets très florissants vont voir le jour.
Au niveau artistique, les projets d'avenir, nous aimerions commencer à faire du sportwear. Ce que j'aime assez bien parce que c'est assez proche de la mode coréenne. Elle est formidable. Il y a la notion des volumes, la notion du confort, la notion de l'esthétique.
À Aubel, au cœur du plateau de Herve, un couple élève des alpagas depuis 2009. Aujourd'hui, il en possède une petite trentaine. Ces animaux sont surtout élevés pour la qualité de leur laine, souvent utilisée dans des boutiques de luxe. Clément Bailly a enfilé ses bottes pour en apprendre plus sur cette espèce, souvent confondue avec le lama.
Dans cet élevage, ces petits cris résonnent du matin au soir. C'est le humming, le son produit par l'alpaga. Il faut dire qu'après autant de temps passé en leur compagnie, Marc et son épouse ont l'habitude. Fabienne, elle, trouve même cela apaisant.
Il suffit de les regarder, de les écouter, les regarder manger, et là, ça, je pense que ça enlève beaucoup de stress.
Même si lama et alpaga sont souvent confondus, ils ont plusieurs différences.
Le lama, c'est plus un animal de bas, donc c'est un animal qui va pouvoir porter des charges et aller en montagne, que l'alpaga, on ne le fait pas. L'alpaga sert plutôt en zoothérapie, avec des personnes en déficience mentale ou physique, et vraiment élevé pour sa laine.
Mais ils ont tout de même un célèbre point commun.
Le crachat, aussi bien chez le lama que l'alpaga, c'est pour vous dire, ne viens pas trop près de moi, tu m'embêtes, laisse-moi tranquille.
Si les élevages se multiplient, c'est parce que la laine d'alpaga est de très bonne qualité. Elle a notamment plusieurs avantages par rapport à la laine de mouton.
La laine d'alpaga est confectionnée pour des boutiques de luxe. Un peu d'un alpaga, vous pouvez le mettre même quand il y a 30 degrés, vous n'allez pas mourir de chaud, parce que c'est une fibre qui autorégule, c'est une fibre creuse.
Ici, chaque alpaga est considéré comme un véritable membre de la famille. Ils ont même tous droit à leur petit nom.
Derrière ces ténors, It's Me, Black Boy Act et It's Easy Boy. Ah voilà, Divine. Il y a Forever Grey qui est là. Ce sont tous des noms, 35 noms.
Il commence maintenant à pleuvoir. Les femelles alpagas restent en troupeau. Elles ne rentrent pas. Elles sentent que le mauvais temps n'est que de passage.
Allez, venez, 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 venez! Allez les filles! S'ils ne rentrent pas, ça veut dire que ça va se calmer. Parce que je peux vous dire que s'il y a une grosse drache, ils seront vite là. Donc ça, c'est le groupe des femelles. Des vieilles, des moins vieilles.
Malgré les appels de Fabienne, la plupart des alpagas ne se laissent pas approcher si facilement. Lola est la doyenne de l'élevage. Elle est très maigre et préfère maintenant rester à l'écart. Elle a 22 ans et est à la fois mère et grand-mère.
Lola, c'est la maman de Moon, qui est là, la noire, ici. Et Moon, c'est la maman de Cute, qui est en train de manger, là.
D'autres comme Moon, plus curieuses, se détachent du lot. Avec son pelage noir, elle avance pour obtenir quelques caresses dans le cou.
Ah, Moon. La plus gentille. Lola était gentille, mais elle est encore plus gentille.
Après une dernière caresse, Moon rejoint ses semblables.
Retrouvez vos informations plus complètes sur 48FM à partir de 18h30. Excellente journée à tous.